Je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin, ce n'est point par la routine que nous sommes là, mais nous sommes là par ton invitation. Nous t'avons élevé nos voix, exprimé notre reconnaissance. Mais toi, tant que Père, tu veux nous équiper, nous donner ton conseil. Accorde-nous les oreilles des disciples, un cœur réceptif, capable, Seigneur Dieu, de porter ton message pour nous transformer et nous conduire à être des vraies lumières dans ce monde. Nous te rendons grâce et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Une petite histoire. Nous sommes au lendemain des Pâques. Et parfois, il y a des messages qui sont des messages de circonstances. Quand on sort du créneau, parfois, ça n'a pas le même écho. Mais pendant que nous sommes dans l'esprit de Pâques, on va y continuer dans ce sens-là. Mais une petite histoire qui recoupe tout ce qui a été dit ce matin et qui est le toile de fond du message de ce matin également. C'est l'histoire d'un crayon, une parabole du crayon. Nous le citons à chaque fois quand il est question d'installer les serviteurs de Dieu. Mais la validité de ce message aussi pour chacun d'entre nous, en tant que celle de la terre et lumière du monde, porteur de la gloire de Jésus. Je le lis. Au commencement, le fabricant d'un crayon parla au crayon et dit, « Il y a 5 choses que tu dois savoir avant que je t'envoie dans le monde. Souviens-toi toujours de cela et tu deviendras le meilleur crayon qui puisse exister. Tu pourras faire des grandes choses, mais à la condition de te laisser guider par la main, ma main. De temps en temps, tu devrais supporter un douloureux aiguisage pour renoncer au copeau qui cache la mine, ce qui est nécessaire si tu veux devenir un meilleur crayon. Troisièmement, tu auras l'habilité de corriger toi-même toutes tes erreurs et tu peux corriger celles des autres. Quatrièmement, la partie la plus importante de toi sera toujours dans ton intérieur. Indépendamment des conditions, tu devras continuer à écrire, laisser toujours un signe clair et lisible, même si la situation est difficile. Le crayon écouta, promit de se souvenir et entra dans la boîte en comprenant pleinement les motivations de son fabricant. Maintenant, mets-toi à la place du crayon. N'oublie jamais les 5 règles et tu deviendras toi aussi à ton tour le meilleur crayon de Dieu pour le monde. Nous sommes des lettres. Les gens n'ont pas le temps de lire, mais ils ont le temps de voir et de lire notre attitude. Et si nous aurons 3 textes à lire ce matin, des textes isolés, mais que je vais tenter de nouer, de faire un assemblage. Il y a des choses nouvelles que d'autres comprendront, mais les choses qui sont des choses anciennes qu'il est nécessaire de rappeler. On va lire 3 passages, 1 Corinthiens 2, 1 à 2. Alors je le lis dans mon texte, je ne sais pas si ça correspond à la même chose. Quand je suis allé chez vous, c'est l'apôtre Paul qui parle, frère, pour vous révéler le plan secret de Dieu, je n'ai pas usé des langages compliqués ou de connaissances impressionnantes. 2. Car j'avais décidé de ne rien savoir d'autre durant mon séjour parmi vous que Jésus-Christ, et plus précisément, Jésus-Christ crucifié. Le deuxième texte, c'est dans Matthieu chapitre 27, versets 39 à 40. Je le lis. Les passants l'insultaient. Insultaient qui ? Il insultait Jésus. Les passants l'insultaient en hochant la tête et il lui disait, « Toi qui voulais détruire le temple et en bâtir un autre en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. »
si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix.
Si tu es chrétien,
descends de ta croix.
Le troisième passage, Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils. Après avoir purifié les êtres humains de leurs péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu. Dans le passé, les prophètes étaient ses intermédiaires. Dieu se révèle désormais pleinement par son Fils. Il ne s'adresse pas seulement aux anciens, mais aussi à nous. En lui, le Fils, parole et action sont inséparables. Il accomplit la purification des péchés qui séparent les êtres humains de Dieu. Ici, c'est en témoin que l'apôtre Paul parle. Il présente son exposé avec un témoignage vu, entendu et vécu. Paul témoigne de la révélation de Dieu, des choses qu'il a reçues de la part du Seigneur. Et vous savez qu'un témoin, c'est celui qui a vécu les événements. Ce n'est pas un témoin théorique, mais un témoin qui a vécu les événements avec Jésus, et dont il a la révélation, et sur lequel il veut ouvrir les yeux des Corinthiens. Souvenez-vous que l'église de Corinthe, c'est une église où il y a les 9 dons. Il se serait glosé d'être la meilleure église au monde parce que les 9 dons de l'Esprit se manifestent. Être dépositaire de 9 dons ne signifie pas qu'on est excellent. Parce que la preuve en est que cette église, bien qu'ils avaient les 9 dons de la part de Dieu, ils vivaient d'une manière pire que les incroyants. Et ceci est possible que lorsque nous connaissons Jésus en tant que tel, le Jésus des Écritures. Et j'y insiste. Parfois, quand je vais en Afrique, je pose la question, de quel Jésus vous parlez? À quel Jésus vous faites allusion? Par le passé, Dieu a parlé par les prophètes. Mais dans les temps actuels, Dieu nous donne le summum de sa révélation à son Fils. Et Jésus s'est révélé sous des formes diverses. Pas qu'une seule forme. Jésus, sous sa forme humaine, entre le moment où il est né jusqu'au moment où il est crucifié, il s'est révélé à nous sous une forme humaine. Il est venu exprimer l'amour du Père. Il est l'image visible d'un Dieu invisible. Nous pouvons le toucher. Il peut nous embrasser, il peut nous guérir. Il peut opérer des miracles, mais il ne peut pas le faire à plusieurs endroits à la fois. Il ne peut pas le faire à plusieurs endroits à la fois. Quand il a Bethphagé, il n'est pas à Jérusalem. Quand il a Jérusalem, il n'est pas en Galilée. Quand il est avec Pierre dans un endroit, il ne peut pas être en même temps avec Jean dans un autre endroit. Il n'était qu'à un seul endroit à la fois. Ça, c'est la première façon dont Jésus se révèle à nous. Et beaucoup ont cette connaissance de ce Jésus qui va de la crèche jusqu'à la croix visible. Et ce Jésus n'habite pas en nous. Il est à côté de nous. Et encore. Ensuite, vous avez un Jésus qui a connu la croix, qui est descendu dans les séjours des morts et qui est revenu à la vie. Il mange, il boit, mais il est capable de traverser les murailles. Il est capable de traverser un endroit enfermé. Et quand on veut le toucher, il dit qu'il ne me touchait pas parce que je ne suis pas encore allé vers mon Père. Et pourtant, il mangeait, il buvait, il parlait. Et ensuite, vous avez un autre Jésus qui a été élevé vers le ciel et dont il nous envoie la présence par son Esprit. Donc, la résurrection nous offre la présence de Jésus à plusieurs endroits à la fois. Ce que, avant la résurrection, ce n'était pas possible. Notre connaissance de Jésus s'arrête où? De la crèche à la croix? De la croix à la résurrection? Ou alors de la crèche à la croix, à la résurrection, et il est monté, répandu. Parce que c'est la dernière révélation de Jésus qui est la vraie. Il est en nous, il est nous revêt, et il est à côté de nous, à chacun d'entre nous. Voilà le miracle de Dieu. Cela signifie que pour rentrer en contact avec Jésus après la croix, il faut que nous fassions une chose. Puisque cette nature de Jésus s'est manifestée qu'après la croix, pour rentrer en contact avec la puissance que Jésus manifeste après la croix, il faut que nous fassions quelque chose.
Mourir à nous-mêmes.
Et tant qu'on ne meurt pas nous-mêmes, on ne peut pas rejoindre Jésus dans cette dimension. Voilà la faiblesse de l'Église. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je ne veux rien d'autre au milieu de vous. Rien, rien d'autre. Que Jésus-Christ, virgule, Jésus-Christ. Mes chers amis, c'est la seule condition que nous puissions avoir les ressources de la part de Dieu pour tenir de manière surnaturelle. L'Église est trop naturelle. Elle est trop raisonnable. Elle est trop humaine pour faire la différence. Dans notre manière de faire, dans notre manière d'agir, l'Église est trop humaine. Alors que l'Église, qui est le corps de Christ, est surnaturelle. Elle est surnaturelle, mes bien-aimés. Tant qu'on n'aurait pas rentré dans cette dimension, nous allons subir. C'est en ce moment-là que Jésus a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez maintenant en mon nom. Investi dans l'autorité de Christ. Muni du pouvoir de celui qui est le Tout-Puissant. Voilà l'Église de Jésus. Pourquoi ? Pour manifester la sagesse des dieux infiniment variée à l'égard de ce monde dans lequel nous sommes. Et souvent, pour rejoindre Jésus, il faut être rivé à la croix. Et c'est là où la tentation commence, pour le Seigneur déjà. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. On pense que c'est une tentation, mais le diable, il est malin. Il savait que si Jésus descendait de la croix, son royaume ne sera pas renversé. Et c'est ce que l'ennemi nous propose parfois. Tu es chrétien ? Oui. Mais je crois que ça vaut la peine de souffrir ? Ah ! Parce que Jésus est venu nous délivrer. On en parlait hier à l'AG de Grisac. On dit que Jésus est venu nous délivrer, mais comment se fait-il que nous souffrons tous les affres du monde ? On souffre pour 4 raisons, au moins. Premièrement, nous souffrons parce que nous sommes issus d'Adam et Ève. Ça, c'est indéniable. C'est eux qui ont ouvert la porte de toutes les souffrances au monde. Par la désobéissance d'un seul, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. La deuxième raison, c'est que nous souffrons par solidarité. Nous faisons partie de l'espèce humaine. La maladresse d'un individu là-bas, sans que j'aie à y voir, répercute sur moi. Quelqu'un déclenche une bombe nucléaire à Hiroshima, je peux avoir les conséquences ici. Je conduis ma voiture tranquillement, les yeux fixés, mais quelqu'un qui va prendre la drogue et qui ne va pas respecter le code de route, il me rentre dedans. Ce n'est pas moi qui ai cherché. Donc nous souffrons aussi par solidarité. On attrape le rhume, on vient dans la maison et tout le monde est enrhumé. Ça, vous ne l'avez pas cherché, c'est fait de vous retrouver. On souffre par solidarité, physiquement, affectivement, si on fait partie du même corps. Troisièmement, nous souffrons parce que nous sommes chrétiens. Nous ne voulons pas faire comme les autres. Nous voulons obéir à la vérité. Et l'obéissance à la vérité a un coût. Détrompez-vous, quand vous obéissez à la vérité, tout ne vient pas, vous n'êtes pas à l'abri de souffrance. Celui qui vous dit que vous obéissez à la vérité, vous êtes à l'abri de la souffrance, il vous ment. L'obéissance à la vérité nous conduit dans le feu. Comme Daniel et ses compagnons, comme lui-même Daniel, qui s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Sauf que quand il s'est retrouvé dans la fosse aux lions, il n'était pas seul. Ses compagnons, quand ils se sont retrouvés dans la fosse ardente, ils n'étaient pas seuls. L'obéissance à la vérité nous coûtera. Et tant que vous ne vous serez pas débarrassé de l'idée de souffrir, vous allez avoir des problèmes. Il faut accepter d'encaisser les coups. Dans une bataille, on prend les coups. C'est celui qui reste debout qui donne le dernier coup fatal à l'adversaire. Mais si au premier coup vous êtes par terre, c'est fini. Et les enseignements que Dieu nous donne, ce sont des prémunitions, c'est des équipements. Peut-être les vérités ne sont pas encore arrivées dans votre vie, mais quand Dieu vous parle, c'est qu'il connaît ce qui va arriver le lendemain. Il vous prémunit, il vous équipe. Et quatrièmement, nous souffrons parce que nous faisons partie du corps de Christ. Un frère souffre, moi je souffre aussi. Et c'est ça qui fait la particularité de l'Église du Seigneur. L'ennemi va dire, mais si tu es fils de Dieu, descends de ta croix. Quand Dieu nous donne la vocation, il trace la ligne à suivre. Il montre le niveau, le standard à maintenir. Mais la tentation de la part de l'ennemi, sous des circonstances diverses, par des voies diverses, il vous dira, descends de ta croix. Arrête d'encaisser les souffrances. Tu es fils de Dieu, Dieu est dominateur. Il n'y a pas de raison que tu souffres. Il y a des évangiles comme ça. Ah oui, j'en ai entendu. Et ils vendent des fioles. Ils vendent des morceaux de mouchoirs. Il y en a d'autres qui prennent les vestes comme ça, ils roulent, enfin ils jettent dessus les gens. J'en ai trouvé un là, je lui dis, qu'est-ce que tu sais à qui tu ressembles? Qui tu sers? Est-ce que tu connais ton maître? Et il y en a aussi un qui m'a agréablement surpris, que je connaissais à l'époque. Je ne sais pas pourquoi sa maman lui a donné ce nom. Il lui a donné le nom de Lucifer. Ah oui, Lucifer, c'en est un. S'il ne se bat pas au moins 5 ou 6 fois dans la journée, sa journée est nulle. J'ai trouvé sa maman qui s'appelait Dorothée. Je lui dis, madame, vous croyez que c'est un programme de vie, hein? Quand votre fils rentre à la maison avec dans sa bouche des bouts de cheveux et des morceaux d'oreilles, parce que lui, quand il se bat, il t'arrache les cheveux avec les dents et il t'arrache les oreilles. Je vous dis, qu'est-ce que c'est un programme de vie que votre garçon rentre à la maison avec dans sa bouche des morceaux de cheveux et des morceaux d'oreilles? Il me dit, mais pasteur, tu veux que je fasse quoi? Je dis que oui. Et pourquoi vous lui avez donné ce nom? Il m'a dit, c'est son oncle. Parce que c'est la lumière. Ben, je dis, mais voilà, la lumière. C'est ce que vous amenez à la maison, la lumière. Bon, on va commencer par un programme. On va déprogrammer tout. Commencer par lui enlever ce nom-là. Alors, pour faire court, je suis allé le voir. Il est marié. Et convenable. Un garçon exemplaire. S'il y a des hommes que les filles rêvaient d'avoir pour époux, c'est celui-là. C'est pour dire que rien n'est impossible à Dieu. Quand on passe par la croix, on est radicalement transformé. Même dans nos goûts, même dans nos choix, même dans nos priorités. Ce qui nous bouffe beaucoup d'énergie, c'est le désir charnel et le désir spirituel. Et nous oscillons entre les deux. C'est très épuisant. Très épuisant. On fait tout par calcul. Est-ce que je fais, les gens vont me dire que je suis chrétien ou pas, et tu navigues entre les deux. Vous n'allez pas demander à un poisson de remonter le courant de la rivière avec sa propre force. C'est sa nature. Vous n'allez pas demander à un oiseau de voler avec une autre force que celle que Dieu lui a donnée. C'est sa nature. Et lorsque nous changeons de nature, en devenant chrétien avec la nature de Christ, mais c'est la propulsion de Christ qui nous pousse dans n'importe quelle circonstance.
Et c'est ça, cette dimension à laquelle nous devons arriver. Et pour cela, il faut être entièrement mort. Il faut être entièrement crucifié, depuis la tête jusqu'aux pieds. Que le Christ, le roi d'Israël, descende de sa croix, afin que nous voyions, afin que nous croyions. Faux. Jésus a dit que je ne décide rien durant ma vie sur terre, sinon c'est ce que j'ai vu faire le Père. La volonté de Dieu, c'est que Christ aille jusqu'au bout. Ces hommes qui lui ont lancé ce défi, c'est des gens qui cherchent à le faire dévier. Jésus est resté à la croix par obéissance. Et c'est le premier clou qui a fixé Jésus à la croix. Et le premier clou qui doit nous maintenir à la croix de Christ, c'est l'obéissance. C'est ça que crucifié. J'obéis. Même si les situations viennent contre mon intérêt, mais que dit la volonté de Dieu ? J'obéis. Je meurs dans ce domaine-là. Je meurs à l'esprit de revendication. Je meurs à mes propres droits. Regardez Jésus. Il n'a jamais rien réclamé. Il te vole dans les plumes quand l'honneur de son père est en jeu. Il te vole dans les plumes quand la vérité est en jeu. Quand les brebis que son père lui a donné sont en jeu, à partir de ce moment, alors là, tu le cherches, tu le rentres, il te rentre dedans. Mais lui-même, il ne se défend pas. On s'attaque à lui, on l'injure, mais il ne bouge pas. Et c'est à ce niveau-là que nous devons y arriver. Je le dis pour vous et pour moi aussi. Plus nous arrivons dans cette dimension, plus la puissance de Dieu se manifeste. Le premier clou qui a maintenu Jésus à la croix, c'est le clou de l'obéissance. Le deuxième clou, c'est le clou de son amour pour les hommes. C'est par amour que le Seigneur le fait. Dieu, lui, constate son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. L'amour de Dieu se manifeste envers nous, qui sommes des indignes, les moins aimables, par l'amour sacrificiel de Jésus-Christ. Ce sommet de l'amour de Dieu pour nous n'est pas à la crèche de Bethléem. Ce sommet de l'amour de Dieu pour nous s'est exprimé à la croix. Même avant la croix, il est dit que Jésus a mis le comble à son amour. Mais ça, c'est avant la croix. C'est pour dire que le summum de l'amour de Christ et de Dieu s'est exprimé à la croix. S'il est un endroit dans le monde où l'amour a débordé, a été plus loin que le comble, c'est la croix du calvaire que Jésus a subi. Quand Dieu veut mesurer son amour à lui envers nous, il prend comme unité de mesure la croix de Jésus-Christ. Ah, la croix de Jésus. Nous sommes tellement incapables de comprendre la profondeur de cette croix, sa hauteur, sa profondeur, sa longueur, sa largeur, au point que l'apôtre Paul est en train de demander à Dieu, « Seigneur, tu m'as donné de voir des choses que personne n'a pu voir. S'il te plaît, je prie pour que les yeux de mes frères et de mes sœurs s'ouvrent sur l'immensité de la grandeur de ta richesse, pour savoir qui ils sont, qui n'érasent pas les murs. » Pour Jésus, aimer, se désirer le bonheur des hommes, malgré leur ingratitude qui lui a brisé le cœur. Aimer, c'est parfois encaisser les coups et se taire. Ah oui. Aimer, c'est encaisser les coups et se taire. Je vous explique. Quand quelqu'un vous commet un scandale, il peut le faire par ignorance. Ou il peut le faire par faiblesse. Il peut le faire parfois volontairement. Mais lorsque le coup est donné, celui qui est victime du coup, suivez-moi bien, il a trois réactions. Soit il réagit charnellement, et là, ça chauffe. Soit il encaisse le coup, mais charnellement, il va en parler à un autre. S'il en parle à un autre, c'est son ami.
le cercle de la médisance commence à s'étendre. Lorsque l'ami de celui qui a commis le coup est au courant, 4 ou 5 personnes sont au courant. Et ils sont opposés spirituellement. Et le règne de l'ennemi s'étend, et le diable frotte la main. La troisième réaction de la victime, c'est de se taire. Je lui dis, Seigneur, le coup, il est là. Qu'est-ce que l'on fait? Tu te tais, tu commences à recommander entre les mains du Seigneur. Ce faisant, automatiquement, il y a une puissance qui va aller toucher la personne qui a commis le scandale. Son cœur va s'ouvrir. Spontanément, il va comprendre, ah tiens, j'ai fait une erreur. Et il va commencer à se repentir devant Dieu. Vous aurez gagné de tous les côtés. Lui, il s'élève dans le Seigneur. Toi, tu t'élèves dans Dieu et le nom de Jésus est glorifié. Et du coup, vous coupez l'herbe aux pieds de l'ennemi. La grâce de Dieu s'installe. La paix, elle est là. Mais quand vous commencez par un scandale à dire à un autre, ça crée un esprit de clan. L'esprit de Dieu n'est pas en paix et l'Église est sous tension. Et dans Psaume 38, verset 19, Jésus le dit. Qui est le serviteur de Dieu? C'est celui qui se tait. Qui est le serviteur de Dieu? C'est celui qui se comporte comme un sourd. Donc il y a des choses devant lesquelles il faut être sourd. Il y a des situations devant lesquelles il faut être muet. Il y a des choses dont il faut être aveugle. Et c'est ce que Jésus a manifesté. Voilà la manifestation de l'œuvre de la croix. Se taire quand c'est nécessaire. Et souvent, chez nous, c'est le contraire. Là, il fallait se taire, c'est là qu'il faut ouvrir la bouche. Je crois pouvoir m'arrêter là. Ce savoir, au milieu de nous, Jésus-Christ est crucifié, c'est ce savoir être sauvé du monde. Le monde est mort pour moi et je suis mort pour le monde. Ce savoir renoncer à ses droits, ce savoir être affranchi de tout esprit de revendication, être vidé de soi-même pour être rempli du Christ. Ah ouais, on ne peut pas être rempli de Jésus quand la bouteille n'est pas vide, ce n'est pas possible. C'est se soumettre à toute chose, en toutes circonstances, sans trahir la vérité. C'est faire face aux souffrances, tout en étant collé à la croix, en laissant Jésus agir. Et par ailleurs, c'est de ne pas s'attendre à être applaudi. Parce que c'est ceux qui disent « le Fils de Dieu soit béni ». Et c'est eux-mêmes qui disent que « Fils de Dieu soit crucifié ». C'est vrai que la nature humaine a besoin de temps en temps d'avoir des compliments, mais ne soyez pas esclave des compliments. Et quand vous n'êtes pas esclave des compliments, ne soyez pas esclave non plus des critiques. Si c'est bon, vous le prenez et vous améliorez ce qu'il faut améliorer, mais sinon, ce n'est pas nécessaire. Voilà, vivre selon la croix. Savoir au milieu de vous Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Appliquons-nous à cette discipline. Encaissons sans réagir, présenter la situation à Dieu. On parle beaucoup aux hommes que à Dieu. Dans des situations, il faut parler à Dieu beaucoup plus que les hommes. Et on aura de belles solutions. Notre Église grandira. Nous aurons la pureté du cœur. Nos prières seront écoutées par le Seigneur. Et on sera dans la vérité. Parce que ce qui fait qu'on tombe dans l'Église de l'Antichrist, c'est de renoncer petitement à des exigences spirituelles à laquelle on doit se soumettre. Et petitement, on se débarrasse de ça, et on vient sur un terrain qui n'est pas celui du Seigneur. Et de manière subreptice, subtile, sans le savoir, on vit un glissement dans un esprit qui manifeste la caractéristique de l'esprit de l'Antichrist. Manque de pardon, esprit de revendication, murmure. Et l'Église de Jésus, ça, là, c'est nous devons faire le contraire.